Nouveauté du vendredi. C'est-à-dire qu'on garde un format caucus jusqu'à midi, jusqu'à vers 12h30. C'est avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Hey, merci de relever les défis du vendredi avec nous. Ça va être super plaisant.
Ben oui, ben moi, c'est ma grosse journée le vendredi. C'est pas comme je suis en demi-télétravail le vendredi.
Parfait.
Ça me fait plaisir.
Ah, c'est tellement, tellement apprécié que tu prennes le temps pour nous. Avant qu'on parle de cette guerre entre Éric Duhaime et Paul Saint-Pierre Plamondon, Emmanuel, je veux qu'on revienne sur la mission de Donald Trump en Chine. Il part de là dans son avion présidentiel en disant « On a fait des ententes économiques fantastiques, mais il n'y a pas de papier de signer. » Fait que c'est du grand Donald Trump.
Ben, c'est du grand. Des fois, ça arrive qu'il faut un peu de travail pour finaliser des ententes. On l'a vu, par exemple, avec Mark Carney quand il est allé lui-même en Chine, puis que ça a pris quelques jours, semaines, là, pour régler les fins et détails de l'entente sur le canola. De toute façon, je lisais, je pense que c'est dans le New York Times ce matin, que en 2017, on avait annoncé pour 250 milliards d'ententes, puis il y a plein d'enjeux. Les ententes étaient signées. Des ententes, ça ne vaut pas grand-chose si on ne fait pas l'effort par après de réussir à les mettre en œuvre. Moi, je pense que ce que la planète va retenir de ce voyage-là, c'est que c'est la première fois où on voit la Chine sur un pied d'égalité avec les États-Unis.
Tu as tellement raison.
Avant, la Chine, c'était le petit frère qui montait, c'était la jeune puissance rivale, mais qui était moins faible et plus faible économiquement. Il y a toujours eu, on courtisait la Chine pour son potentiel économique, mais en termes d'influence, de puissance, d'autorité, il n'était pas d'égal à égal. Maintenant, quand Donald Trump, pour réussir à flatter le président chinois, lui dit, on parle souvent du G7, mais dans le fond, ce qui compte, c'est le G2, ben, il vient de donner sur un plateau d'argent ce titre de superpuissance d'égal à égal avec les États-Unis. Puis c'était quand même remarquable de voir tous les gens d'affaires qui sont déplacés avec Donald Trump, ils étaient dans une position de demande, je dirais.
Ah oui.
Une position d'une hégémonie fragilisée. T'sais. Tout d'un coup, Apple est encore le géant de la fabrication de téléphones cellulaires, on s'entend, mais en Chine en particulier, ailleurs dans le monde, il est concurrencé par Huawei, par d'autres compagnies chinoises. Tesla n'est plus la compagnie numéro un de véhicules électriques. Puis ça, c'est un élément qu'on n'a souvent pas relevé. Mais la réalité, c'est que la Chine a immensément investi pour créer ses propres géants de la tech, ses propres... pour justement ne plus dépendre des produits américains et pouvoir ensuite aller les concurrencer sur la scène internationale. Et c'est là, je pense, qu'on saisit l'ampleur du dragon là, chinois, si on veut. Puis M. Trump n'avait pas une grosse main à jouer, hein, lui qui est affaibli chez lui domestiquement puis qui est affaibli sur la scène internationale à cause de son excursion désastreuse en Iran en ce moment.
Justement, puis tu parles de ça, on voyait pratiquement la compagnie Boeing se mettre à genoux pour dire hey, s'il vous plaît, achetez-nous des avions. Donc, c'était quand même assez surréaliste. Sur le dossier géopolitique, justement, Donald Trump allait là dans l'espoir que la Chine l'aide à rouvrir le détroit d'Hormuz puis à essayer un peu de tempérer la situation en Iran. Mais encore là, ça semble être un échec.
En tout cas, il n'y a pas d'engagement clair ni précis de la Chine. Pire que ça, le président chinois s'est quand même permis de servir sous des airs de blague une taloche sans équivoque là, au président américain quand il lui dit « Je nous souhaite d'éviter le piège de Thucydides en français, Thucydides en anglais ». C'est quoi le piège de Thucydides? Je pense que tout le monde l'a googlé après l'avoir entendu. C'est un historien de l'époque antique grecque qui faisait remarquer que quand il y a une nouvelle superpuissance qui émerge, l'ancienne superpuissance tend à vouloir lui faire la guerre pour l'anéantir. C'est ce qui expliquerait finalement la guerre entre Athènes et Sparte. Alors, c'est un peu une façon de mettre en garde les États-Unis. Aventurez-vous pas trop parce que moi, la guerre sur l'enjeu de Taïwan, je suis prêt à la faire. Alors, je pense qu'on on voit cette espèce d'arrogance, d'audace qui est propre aux superpuissances, c'est que la Chine, maintenant, se permet de faire des leçons de morale sur la place publique ainsi aux États-Unis, ce qu'ils ne se permettaient pas de faire dans le passé.
Est-ce qu'on doit s'inquiéter, en terminant sur ce dossier-là, est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette place plus importante de la Chine, autant en géopolitique qu'au niveau économique?
Bien, certainement, dans la mesure où avant, on avait une assurance qu'on bénéficiait du parapluie. Je pense que ce dont on doit surtout s'inquiéter, c'est de la fin du parapluie sécuritaire américain.
Ah, t'as raison.
Dont le Canada, puis l'Europe en particulier, sous l'égide de l'OTAN, a bénéficié pendant des décennies. Je pense qu'à ce chapitre-là, Donald Trump n'avait pas tort en disant qu'il ne pouvait pas, que ce n'était pas aux États-Unis de porter seul le poids de ce parapluie-là. Mais là, on est au-delà de ça. On est face à un... C'est au-delà du repli stratégique américain. C'est une Amérique qui est affaiblie carrément, avec un président qui est tellement TDAH que finalement, il ne peut mener à bien un dossier jusqu'au bout. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui fait qu'il a largué l'enjeu de l'Ukraine face à la Russie, c'est ce qui fait qu'il est embourbé en Iran, que là, on regarde du côté de Cuba. Et donc, cette espèce de côté de présidence dysfonctionnelle, sans priorité claire, qui est difficile à lire. Mais c'est ça qui rend finalement les alliés des États-Unis beaucoup plus vulnérables. Je pense que tout le monde en est conscient, puis c'est la raison pour laquelle on est littéralement à l'aube d'une immense course pour l'armement dans ces pays-là, pour réussir à développer le plus rapidement possible, sinon une autonomie davantage, une plus grande indépendance en termes de défense. Mais le problème, c'est que ce genre de reconstruction-là, ça prend de 5 à 10 ans à faire, ce qui est beaucoup plus long que la présidence américaine et ses conséquences.
Exactement, ce qui est beaucoup plus long que ce deuxième mandat de Donald Trump. On revient au Québec. Emmanuel, je te fais entendre Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin à sa sortie d'un discours au Congrès de l'Union des municipalités du Québec concernant la plainte qu'il a déposée contre le Parti conservateur du Québec pour l'élection partielle d'Arthabasca, une plainte qui concerne le financement.
Rendait compte d'un certain nombre de choses inusitées. Le mécanisme permet au Parti québécois de faire une demande au directeur général des élections pour avoir le détail. Et on a trouvé des factures dans le cadre duquel la facture dit explicitement on vous a pas tout chargé. Donc, c'est... Regardez le rapport, là, mais je donne un exemple sur 9. Il y a 9 constats, dont un où la facture dit littéralement on vous charge pas tout. C'est ce qui est évidemment contre l'esprit de la loi. Donc, moi, je suis entièrement confiance en ma directrice générale et les gens qui font le travail des dépenses. Ça a été remis entre les mains du DGE. Puis là, je pense qu'il faut simplement laisser les institutions faire leur travail. Mais le rapport, il est disponible si vous voulez le consulter. Puis les faits me semblent assez limpides.
Je commence avec la stratégie, Emmanuel. On a vu dans les sondages cette semaine la CAQ remonter. Puis ça s'est fait un peu au détriment du Parti conservateur du Québec, surtout dans les régions. Moi, je ne m'attendais pas à ce que le PQ attaque le PCQ de cette façon-là. Est-ce que ça t'a surpris aussi?
Oui, bien, c'est surprenant parce que ce n'est pas la principale menace. Mais en même temps, pour faire le pont et réussir à obtenir ce pouvoir et cette majorité, il faut que le PQ mise sur le fait de réussir à faire le plus le plein possible d'appui, je te dirais, dans la grande région de Québec où est fort le PCQ. Donc, je pense que ça illustre cet incident-là que le Parti québécois ne fera pas de quartier à aucun de ses adversaires et est en mode attaque. Plutôt que d'attendre de voir ses appuis s'étioler tranquillement, pas vite, je pense que ça illustre le succès ou l'effet reconstruction, là, l'effet crédibilité qui se fait sentir dans les efforts d'Éric Duhaime pour camper le sérieux de son option politique au-delà des règles sanitaires, des trans puis des guerres culturelles.
Là. En effet.
Mais c'est quand même un pari qui est... Premièrement, Éric Duhaime, sa réponse est facile. Tu sais, lâche pas des pierres quand t'habites dans une maison verte à cause du passé d'Alex Boissonneau. Je pense que ça, la cause d'Alex Boissonneau et du député des îles a été entendu. Les électeurs étaient au courant de ces allégations-là, de ces enjeux-là, et ont décidé de les élire. C'est aux électeurs de juger. Mais je pense néanmoins qu'il y a quelque chose de très risqué à aller sur la place publique, mettre des allégations de cette gravité-là, on s'entend, parce que dépasser le plafond de dépenses électorales, tripoter tes livres sur ton dossier de dépenses électorales, ça peut mener à une peine d'inéligibilité là, pour Éric Duhaime.
Et pour 5 ans.
Pour 5 ans. Donc, c'est quand même très, 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 très grave. Éric Duhaime semble avoir des explications jusqu'ici sur le fait qu'il y a eu la permission du DGEQ pour distribuer son livre et le comptabiliser seulement aux frais d'imprimerie et pas à la valeur marchande du livre, que l'enjeu du faible coût payé pour louer une maison pendant la durée de la campagne s'explique par le fait qu'il n'habitait pas l'ensemble de la maison. Donc, jusqu'ici, M. Duhaime semble avoir des explications. Donc, est-ce que ça va forcer le DGEQ à faire enquête plus méticuleusement? Probablement, mais il y a un risque réel que si là, le DGEQ va être obligé de trancher, on l'espère avant la fin de la, avant le début de la campagne électorale.
C'est clair.
Si le DGEQ donne raison au Parti conservateur, mais là, c'est toute la crédibilité du Parti québécois qui s'en trouve entachée. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'opération est risqué, si on veut.
Oui, exactement. Il parle de 9, justement, infractions qu'il a vues. Il dit « Je fais confiance à ma directrice générale. » Mais il me semble que si j'avais été le PQ, je serais pas embarqué dans cette petite guerre d'épouvantail-là. C'est-tu moi qui est un mauvais stratège politique?
Ben, si tu es vraiment convaincu qu'il y a des irrégularités, vas-y. Mais je pense qu'il y avait moyen de mener cette opération peut-être contre Éric Duhaime de manière à moins exposer la crédibilité du Parti québécois. C'est ça qui est risqué. C'est qu'il y a un effet boomerang à un moment donné. Comme on ne connaît pas les conclusions de l'enquête et comme de toute évidence, M. Duhaime lui semble assez convaincu qu'il n'y a rien à se reprocher là-dedans. Là.
En effet, t'as entièrement raison. On l'avait sur nos ondes, Éric Duhaime, ce matin, dans Marceau le matin. C'était écouté sur blvd.fm. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit. Là, ben, pour les livres, il n'y avait plus de valeur marchande parce que ces livres-là s'en allaient à scrap. Fait que j'ai racheté ça au prix coûtant. J'avais lâché un coup de fil avant au DGE. Donc, ça sera à suivre. Parlant de perte de crédibilité, l'Autorité des marchés publics est allée d'un rapport catastrophique pour la CAQ concernant...
Je ne sais pas si c'est catastrophique pour la CAQ, je vais t'avouer.
Hein, vas-y donc, explique-moi.
Mais c'est pas comme si l'AMP a décidé de faire enquête parce qu'il y avait une autre allégation de sa clique. Là.
Mm-hmm.
C'est un gouvernement qui se rend compte qu'il y a un sérieux problème dans ces contrôles-là, là, que personne ne sait où on s'en va, comment on s'en va, puis qu'on est toujours pris à jouer dans le même film. Puis c'est la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui a demandé à l'ANP, genre, pouvez-vous regarder c'est quoi le problème, là? Nous faire un diagnostic, là?
Ouais, je comprends, c'est dans un but d'améliorer.
Il y a quelque chose de proactif là-dedans, ouais. Tu sais. Mais je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ce rapport-là, c'est que, tu sais, quand tu lis que on bâcle le travail de préparer les appels d'offres pour ces grands contrats informatiques-là pour deux raisons. On veut aller trop vite, puis on tourne les coins ronds parce qu'on veut s'assurer que ça passe au conseil. Tu sais, que ça passe au conseil.
Ouais,
tu sais, c'est comme... Il y a comme une... Alors, ce que ça illustre, moi, je trouve, c'est qu'il y a un problème de culture à l'interne au sein du gouvernement. Donc, c'est vraiment intéressant dans les faits parce que c'est comme si l'AMP lève le voile sur les problèmes systémiques qu'il y a dans la façon de fonctionner. En termes de manque d'expertise, en termes de manque d'imputabilité, de manque de responsabilité. Donc, finalement, on comprend maintenant pourquoi ça ne marche jamais.
Ouais. Non, je comprends.
C'est fait tout croche.
Où est-ce que je voyais une problématique pour la CAQ? C'est qu'on a créé ce fameux ministère de la cybersécurité puis de la transformation numérique. Puis ça n'a pas réglé le problème de gouvernance. Tu sais, c'est resté problématique, la gestion des projets.
Mais c'est comme qu'on a réglé. Et puis, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé ce ministère-là, mais un peu comme si on ne savait pas quoi faire avec.
C'est ça. T'sais, il est devenu un ministère conseil, alors que pour moi, si tu le crées, c'était pour qu'il prenne en charge les contrats et qu'il fasse bénéficier son expertise pour que ça aille mieux, justement.
Mais ce qui est intéressant, c'est que la commission Galant n'en arrive pas à la même solution que l'AMP non plus. Comme quoi, c'est pas si simple que ça, cette histoire-là. Là. Est-ce qu'on donne ça à un organisme sous le Conseil du Trésor, qui est comme l'autorité qui gère ces contrats-là avec des gens certifiés, des top guns, appelle ça comme tu veux, là? Puis que le travail du ministère de la cybersécurité et du numérique, c'est davantage en termes de recherche et d'experts conseils, si tu veux, ou est-ce que tu crées une seule autorité qui fait les deux en même temps? Donc, c'est clair que c'est difficile, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que au-delà d'assigner un blâme politique, puis je pense que la CAQ va payer politiquement pour ça parce que la CAQ avait... C'est une de ses plus grandes promesses non tenues. Là.
Ben oui.
Elle avait promis de... Elle s'était fait tellement de capital politique sur le dos des cafouillages informatiques.
Le shérif Eric Kerr
a tellement promis qu'eux trouveraient la solution au ministère de la caramilque. Là. Mais là, justement, on a... C'est comme si Sonia Lebel a demandé à l'AMP d'aller l'ouvrir, la caramille, puis regarder ce qui se passait là-dedans, puis d'essayer de comprendre. Donc là, on a des outils pour accoucher d'une solution plus pérenne. Mais 8 ans de pouvoir, c'est quand même la CAQ qui n'a pas réussi, si on veut, à faire ce ménage-là. La seule chose que j'ose espérer, c'est que le prochain gouvernement, lui, en tout cas, n'aura plus d'excuses parce qu'il aura 2 rapports bien ficelés, très critique, avec des pistes de solutions. Donc, il y a vraiment maintenant les outils pour réussir, je te dirais, à changer les façons de faire à l'interne au gouvernement.
En effet, tu as entièrement raison. Emmanuel Latraverse, merci beaucoup de nous faire cette version du caucus à chaque vendredi.
À la semaine prochaine.
Je te souhaite une belle fin de journée et un bon week-end. Salut! Emmanuel Latraverse qui va être avec nous maintenant les vendredis dans le caucus. C'est un segment dans l'émission On en jase de midi à 12h30. Très intéressant de vous lire au 418-971-1021. Kim qui nous écrit « Ça va être quoi rendu en campagne électorale? L'impression que j'ai, c'est que ça sera juste de la bagarre et non un plan de match pour les 4 prochaines années. » Souhaitons que non, car le Québec a besoin de savoir où il s'en va, car depuis 8 ans, on ne le sait pas. Et en effet, c'est en réaction justement à cet affrontement-là entre Paul Saint-Pierre Plamondon et Éric Duhaime sur les dépenses électorales. Il va falloir faire d'autres choses que juste, moi j'appelle ça de la petite politique, là, des petites chicanes. Il va falloir parler de Québec, comme on le voit dans 8, 12, 16 ans, parce qu'il y a énormément de problématiques à régler. Puis on est rendu pas mal au bout de l'élastique financier des contribuables. Ça ne sera pas juste en rajoutant de l'argent.
Totalement d'accord. Puis cette valse-là de se dire, quand on fait de la politique de ce type-là, qui est un petit peu plus, flash, tape à l'œil ou quoi que ce soit, bien, c'est ça qui est retenu aussi. Là. Donc, les politiciens, ils savent. Ils vont là, des fois, parce qu'ils disent, au moins, on va faire parler de nous.
Exactement.
Notre nom va venir à la une des journaux. Ce serait le fun qu'on n'alimente pas ça. Autant les médias que les politiciens eux-mêmes, là, qu'on arrête cette roue-là qui est finalement zéro efficiente pour le Québec en général.
Circulation.
Oui, Robert Bourassa-Sud, auteur Félix Leclerc, la voie droite qui est bloquée, on a une panne et il y a des gens qui ont demandé ce qui se passait du côté de Lévis. Ben, Robert Clich-Sud, là, ou l'échangeur pour l'autoroute 20S. Il y a la voie droite qui a été bloquée pendant un bout, il y avait un incident. L'incident est terminé, mais c'est sûr que ça ralentit.
C'est clair. Après la pause à boulevard 102-1, on reçoit le maire Sylvain Junot. Le maire de Saint-Augustin de Desmaures, on veut avoir son opinion. C'est vrai qu'on est rendu à taxer encore plus les citoyens? Parce que sinon, il n'y aura plus d'eau potable pour nos enfants. Comme Monique Jérôme Forget nous l'a dit. On va écouter le maire Junot après cette courte pause à Boulevard 101, l'émission On en jase.